le père Joël Pralon, formation initiale, infirmier dans le domaine psychiatrique. Il est tout à fait indiqué pour les différentes maladies de Thérèse. Le père Joël Pralon, actuellement, s'occupe de jeunes en formation, se préparant à rentrer, à devenir prêtre, et il est tout à fait indiqué pour nous parler d'une Thérèse qui a voulu consacrer sa vie pour la prière des pécheurs et des prêtres. Alors merci, Père Joël, de venir guérir un petit peu notre Thérèse et peut-être d'autres avec elle.
Alors, s'il vous plaît, d'abord guérir le micro. Si le Père Joël est tout à fait indiqué, j'espère qu'il y aura des effets secondaires quand même, provoqués par Thérèse elle-même. Alors, je ne suis pas venu pour guérir Thérèse, évidemment, parce qu'elle a plus besoin de guérison, mais pour vous dire que Thérèse m'a d'abord guéri, moi, intérieurement, si j'aurais bien sûr le temps de vous le dire dans cet enseignement, que j'ai intitulé « Vaincre ses peurs avec Thérèse ». Et oui, la peur. On a tous des peurs qui nous habitent. Il y a les petites peurs de tous les jours, il y a les petites peurs par rapport à ce qu'on a à faire, par rapport au regard qu'on porte sur nous, par rapport au jugement qu'on peut avoir. Et puis il y a des peurs encore peut-être plus profondes, durables, la peur de la maladie, la peur de la guerre, la peur d'un bouleversement mondial, la peur du réchauffement planétaire et du refroidissement religieux, par exemple. Tout le monde n'a pas peur du refroidissement religieux. Il y a la peur parce qu'il y a beaucoup de petites révélations qui circulent sur le retour du Christ. Il va y avoir un bouleversement, que sais-je encore. Ce sont d'autres peurs. Mais si on est en Dieu, pourquoi aurions-nous peur? Ce qui est important, c'est d'être en Dieu ce soir, maintenant. Peut-être que demain, je serai mort, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est d'être en Dieu maintenant. C'est lui qui nous dit « calme ». Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Ça qui est important, c'est vivre. Le moment présent, on vit un instant, un grand moment cet après-midi de grande paix. Ben Dieu est là. Et Dieu se réjouit d'être la paix au milieu de nous. Cela suffit. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Vivons pleinement l'instant présent. Oui, une antidote contre les peurs, c'est d'essayer de faire le vide dans sa tête et de vivre intensément, pleinement le moment présent, parce que c'est dans le moment présent que le Seigneur se manifeste. Parce que si notre tête, elle est soit dans le passé ou soit dans l'avenir, on ne regarde pas le Seigneur. Et si on ne regarde pas le Seigneur, il ne peut pas se manifester. Donc on va essayer durant ce petit instant de le vivre pleinement, avec tout l'art de l'attention, cet art dans lequel va se glisser la foi. Jésus, je te regarde et je me laisse regarder par toi maintenant. Et puis, il y a des grandes peurs encore beaucoup plus profondes qui se transforment en anxiété, en angoisse. C'est aussi lié à des tempéraments, vous savez. Il y a des tempéraments naturellement anxieux qui ont peur de tout. Puis là, il faut faire avec. Chacun a ses petites croix. Il ne faut pas vouloir rejeter la croix. Il y a des tempéraments colériques qui sautent en l'air pour un rien, qui se replient sur soi, etc., etc. On a des tempéraments qui sont parfois une croix, mais à travers laquelle Jésus nous bénit. Si cette croix, on l'accepte, si cette croix, on l'offre. Vous voyez, on n'a pas choisi d'avoir le tempérament qu'on a, d'avoir le physique qu'on a, d'avoir le nez qu'on a, que sais-je encore. C'est pas grave. Ça montre par là que si nous existons, c'est parce que nous avons été donnés par quelqu'un. Nous sommes chacun et chacune un cadeau. Mais il faut y croire, un cadeau de Dieu. Alors bien sûr, il y a, vous savez, un cadeau, des fois, il est enveloppé de différents papiers d'emballage. Il y a les papiers rigides, des fois, on se coupe un peu les doigts. Il y en a, il faut ficeler fort. Il y en a, il faut prendre un gros ciseau. Il y a les papiers de soie, vous voyez, c'est doux au toucher. Il y a différents emballages. Il ne faut jamais s'arrêter à l'emballage. Il faut toujours aller voir ce qu'il y a dans le cadeau. Pas, paquet cadeau. Et si on sait dépasser des fois les caractères, les tempéraments, les côtés un petit peu rigides ou affolés, ou les tempéraments qui paniquent pour un rien. Et au bout de 2 ans, j'ai jeté l'éponge. J'ai dit non, je me casse là, c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Et puis je vais retourner dans mon hôpital quelque temps, vu que j'étais soignant. Je trouve que c'était là j'avais mes compétences et puis j'aimais mon métier. Puis à un moment donné, il y a un prêtre qui, un peu par forcing alors, il m'a tiré dans une retraite sacerdotale. Puis moi, je lui ai dit, je ne veux plus voir ces curés. Ça m'énerve. Je ne les supporte plus. J'avais fait vraiment une maladie au curé. Je ne les supportais plus. Je disais, l'église, c'est nul, il n'y a pas d'unité. C'est un peu comme un adolescent, quoi. Et là, on nous a annoncé une nuit de prière devant le Saint-Sacrement. J'ai dit, alors ça, c'est pas pour moi. Ces histoires-là, c'est pas pour moi. 80 prêtres, c'était à Lyon. Et je vais aller une demi-heure. Et j'arrive au fond de la chapelle, il n'y avait plus qu'une place, c'était devant. Alors le prêtre m'a dit, viens par ici, toi. Et plaf, il me planque devant. Oh, je dis, zut alors. Et là, j'étais devant le Saint-Sacrement, puis... À un moment donné, moi j'ai vécu, c'était en 1986, voilà pourquoi Thérèse était là. 1886, la grâce de Noël, et là j'étais là. Et soudainement, petit à petit, je voyais que le Saint-Sacrement s'animait, c'était comme un feu. Je ne voyais plus qu'un feu. Ce feu qui se rapprochait de moi et qui, à un moment donné, pénètre dans mon cœur et me brûle. Ça serait un petit peu l'expérience... Ouais. Je suis pas fou parce qu'il y a Jérémie le prophète qui a dit un peu la même chose. Il a dit, je traduis avec mes mots, ta parole Seigneur, elle est objet d'opprobre, je ne veux plus prêcher pour toi, je suis rejeté par tout le monde, je suis critiqué par tout le monde. Puis à un moment donné, il dit, Jérémie qui a un tempérament dents de scie, comme je l'avais, mais vraiment dents de scie. À un moment donné, il dit, Seigneur, mais quand tes paroles se présentaient, elle faisait le ravissement de mon cœur. C'était comme un feu dévorant qui me pénétrait. Et là, je ne pouvais plus me taire. Voilà ce que je vis cette nuit-là. Mais c'était, vous savez, je vous le dis humblement, physique. Pourquoi des fois le Seigneur nous donne ces grâces-là? Parce qu'il se dit avec celui-ci, il n'y a plus d'autre moyen que ça. Sinon, il est foutu, quoi. Et c'était physique, un feu. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'entendais au fond de mon cœur ces paroles. Laisse-toi faire. Pourquoi tu veux tellement faire? Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Ça, j'avais jamais su. J'avais jamais compris. J'avais fait de la théologie. Puis je disais dans mon cœur, mais c'est pas ce qui est dans la Bible. C'est pas ce que j'ai appris. Et la parole suivante disait, rien n'est impossible à Dieu. Laisse-toi faire, laisse-toi toucher. Il a fallu cette grâce pour que je sois aujourd'hui devant vous. Il a fallu cette grâce. 1986, c'est vieux, hein. 1986. Et je vois toute ma vie d'orgueil, ma vie de pécheur et toujours cette parole. Laisse-toi aimer, je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour être mon prêtre. Et je regarde ma montre, il est 6h du matin. J'avais pas vu passer la nuit. Et depuis, c'est vrai qu'il s'est passé comme Thérèse. C'est là que j'ai rencontré Thérèse. C'est là que j'ai compris qu'elle avait été avec moi. J'ai vécu une grâce semblable. La grâce du petit qui se laisse toucher, qui peut mettre des noms sur l'origine de ses angoisses, qui pour moi, un des motifs, c'était de vouloir arriver, avoir des compétences que je n'avais pas forcées pour plaire, pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et je n'y arrivais pas. Et là, je me suis laissé aimer, cela fait bien plus de 30 ans maintenant, et je n'ai jamais, depuis cette nuit-là, perdu la joie d'être prêtre. Je suis devenu un défenseur du sacerdoce, peut-être pour ça que le Seigneur m'a amené au séminaire. Hein. Et c'est vrai que j'aime les prêtres, et que je trouve que c'est un service pour celui qui est appelé, qui est grandiose. Ça doit être un prophète, un prêtre doit être un prophète qui doit transmettre ce feu qui l'habite, de différentes manières, aussi à travers son tempérament, bien sûr. Et voyez, après, par la suite, j'ai cheminé un petit peu et j'ai travaillé ce que c'était que la confiance et l'abandon. C'est des communautés nouvelles aussi qui m'y ont aidé. Et j'ai appris ce qu'on appelle, je vous le dis brièvement, une expérience de providence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est expérimenter qu'effectivement Dieu est providence, qu'il prend soin de nous. Alors, une expérience de providence, je vous le dis en quelques points, ça peut vous aider. Puis mettez ça en pratique. Je suis devant un événement difficile, ben je dis « Père, je te bénis d'être devant cet événement, plus je ne peux pas faire, me grandir c'est impossible. Puis je te bénis parce que toi tu es mon Père, puis je te bénis simplement parce que tu es mon Père et je sais que tu es un Père qui prend soin de ton enfant. Et je prends le temps de louer Dieu, de louer Dieu. Puis après je lui dis « Père, comme un enfant, je te dis, il y a ça qui ne va pas. » Puis je te demande de changer l'événement. Puis tu es un Père tellement bon que je suis sûr que tu vas changer l'événement. Et si tu ne le changes pas, tu vas me donner quelque chose qui me montre que c'est important qu'il y ait cet événement. Mais j'aurai plus de peur, j'aurai plus d'angoisse. Et ensuite, je reprends le temps de bénir le Père, de dire à notre Père, de dire un jour salut. Puis dans la mesure du possible, de poser un acte de charité envers quelqu'un, pour montrer au Père que s'il est mon Père, ceux qui m'entourent sont aussi mes frères. Et que ça va faire plaisir au Père de voir que je prends soin de mes frères. Puis je vais tout remettre ça. Ben, je peux vous promettre que dans la vie, Dieu agit. Pour moi, ça a été vraiment comme ça. Je pourrais vous raconter des quantités d'expériences où par cette expérience de providence, le Père a agi et l'événement a changé. Je ne vais pas vous raconter, on n'en finirait plus. Mais je vais vous raconter une autre petite expérience pour vous faire rire, qui fait que j'ai oublié de faire une expérience de providence. C'était hier soir. J'étais invité à Radio Notre-Dame. Alors je suis rentré, c'est minuit et demi, et j'arrive ici, la grille fermée. C'est une immense grille. Elle est haute. Enfin, en tous les cas, 10 fois moi, donc peut-être 5. Ouais, peut-être pas autant. Puis je me suis dit, bon, mon téléphone portable est dans la chambre, je vais quand même pas aller à l'hôtel, ou bien il ne reste plus que le trottoir. Et puis j'ai pas pensé, j'ai quand même dit, Thérèse, fais quelque chose, quoi. Mais oui, non, ça je l'ai quand même dit, j'avoue, mais j'étais tellement paniqué, vous savez, la peur de me dire c'est foutu, que dans la panique, j'ai regardé cette grille avec, vous savez, des pointes magnifiques. Mais des pointes. Oh, alors, forgeron là, bravo. Puis j'ai regardé, il y avait comme une pancarte entre deux sur la grille métallique. J'ai dit, j'arrive, je pose le pied sur la pancarte, je passe la barrière. Et hop, je gravis la barrière, je mets mon pied sur la pancarte, je chevauche le sommet et je tombe entre deux pointes. Et je me retrouve entre deux pointes. Ça ne faisait pas du bien, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai dit, maintenant, comment je vais passer de l'autre côté? J'avais, oula. J'ai dit, il y a un buisson, est-ce qu'il y a des épines ou pas? Mais je n'arriverai même pas jusqu'au buisson, mais je vais me casser la tête, quoi. Et tout à coup, je vois que la porte s'ouvre. Mais c'est incroyable. Merci Thérèse, j'aurais mieux fait. Si j'avais attendu, elle se serait ouverte. Si j'avais fait une expérience de providence, je ne me serais pas enfoncé le coccyx dans... Mais vous savez, je vais très bien à part ça. Et je pense que j'ai dû réveiller le gardien, je ne sais pas. Et puis, je suis descendu de ma barrière, mais du bon côté, pas du côté buisson, parce qu'il restait encore toute une opération, vous voyez. Et j'ai dit au gardien, mais qu'est-ce que vous faites là? Puis il me dit, il me prend pour un voleur. Je dis, enfin, j'ai ma chambre là, j'étais furieux. Puis après, je me suis dit, si tu avais fait une expérience de providence, le Père se serait occupé. Mais là, je l'ai oublié, voyez. Mais c'est des toutes petites choses comme ça, moi, que j'aimerais vous faire passer. Il faut être simple, comme Thérèse l'a été. On est trop compliqué. On voudrait toujours tout maîtriser, tout expliquer, tout. Enfin, voilà, je m'arrête là parce qu'il faut quand même s'arrêter. Et je vous invite vraiment à approfondir, Thérèse, la petite voix. Et vous allez voir que, moi je vous le promets depuis cette seconde conversion de 1986, j'ai trouvé la paix. Du moins je suis toujours resté un être très sensible, mais j'ai la force de de vaincre et d'aller plus loin. C'est pourquoi j'écris ce petit bouquin « Vaincre ses peurs » où lorsque nos blessures diffusent la lumière, c'est parce que j'ai vu que c'est quand on nomme les choses dans la vérité que la lumière peut jaillir. Et vous savez, si Dieu s'est fait faible, petit enfant, c'est pour qu'on ait plus peur de nos faiblesses. Et je vous y encourage à réfléchir. Merci.
Joël, pour ce qui est de l'éponge, ça va. Chacun de nous avait beaucoup de place dans son cœur et a accueilli toutes les paroles que tu nous as dites. Peut-être qu'on en aura oublié quelques-unes quand même, hein. Il y en avait beaucoup. Pour ce qui est de la grille, quand tu vois une grande porte, ne te précipite jamais vers la grande porte. Il paraît qu'il y a une petite porte... Et qu'habituellement, même Thérèse, elle a su ça, elle a pris la petite porte. Alors toi... Merci quand même, on essaiera de ne pas se tromper comme toi. Hein.
Oui, mais la petite porte, elle est fermée à clé en ce moment, il me semble. En tous les cas, moi, je remercie parce que je pense que la petite Thérèse, elle a quand même veillé sur le Père. Vous vous imaginez, ce matin, quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit, oh non, on est passé à côté d'un truc incroyable, quoi. Voilà. D'habitude, ce sont les jeunes d'Auteuil qui, de temps en temps, essaient de passer la grille. Ben voilà, c'est son cœur qui reste toujours très jeune. Alors, je suis désolée de me répéter pour ceux qui ont déjà entendu ce matin. Mais si vous voulez vous procurer l'enseignement du Père Pralon, vous pouvez le faire à l'extérieur. Vous avez aussi une librairie. Il y a les confessions aussi qui continuent, ici et à l'extérieur. Vous avez une conférence qui va être sûrement très intéressante sur donc Thérèse et le Père Brottier, qui sera de l'autre côté à 17h30. C'est notre archiviste d'apprenti d'Auteuil qui vous donnera cet enseignement sous forme aussi de projection photo. 18h30, donc, ici, dans la chapelle, les vêpres de la fête de Sainte-Thérèse. Et puis, à nouveau, leçon et lumière à 20h15 et 20h45, une soirée de prière, guérir avec Thérèse, animée par le Père Joël. Voilà. Et puis, je laisse la parole aussi à Jean-Paul, qui s'occupe de la librairie.
Oui, merci. Juste un petit mot pour vous signaler que le dernier ouvrage du Père Joël Pralon, « Quand nos blessures diffusent la lumière », vient de sortir aux éditions Cabeditas et donc vous est proposé à la sortie de Pralon.
Qui sont hypersensibles, qui sont blessés à la moindre parole, tout ça c'est l'emballage. Il fallait voir dedans. Ce que disais ce matin dans l'enseignement, dedans il y a l'enfant que je suis. L'enfant qui est en quête d'amour, qui est en quête de Dieu. L'enfant qui dit, comme dit saint Paul, « Abba, Père, tu es mon papa d'amour et je sais que tu m'aimes. Et je peux rester en dialogue avec toi. Je peux te parler de mes peurs. Je peux tout te dire. » Vous savez, il y a une peur très tenace, puis elle est souvent inconsciente, c'est la peur de Dieu. Elle est encore là, cette peur, vous savez. On a été éduqués, quand même, ça c'est notre éducation, pour plaire. Pour réussir. Si tu fais des bonnes notes à l'école, on dira à un enfant, eh ben, on va le féliciter. Mais on va aussi t'aimer si tu fais de mauvaises notes, mais peut-être que l'enfant, il ne l'a pas compris, lui. On va souvent pousser notre jeunesse à réussir le mieux possible, ce qui est bien aussi. Mais souvent, ben, on voit dans la vie professionnelle, on ne choisit que les meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire être meilleur? Peut-être intellectuellement, peut-être avec une quantité de compétences. Puis les autres, ils sont un petit peu en rade. Puis les qualités de cœur. Il y a des gens, il y a des jeunes. Moi, je connais bien les jeunes. Ils ne sont pas forcément compétents en tout. Certains ont de grandes difficultés, de grandes blessures. Mais ils ont des qualités de cœur tellement extraordinaires. Et c'est ça l'essentiel dans la vie. On peut être un magistrat, on peut être quelqu'un de reconnu, d'adulé, et puis souffrir à l'intérieur. Mais ça ne soit pas. Être continuellement stressé. voyez ? Parce que finalement, il n'y a personne qui nous aime. On nous respecte simplement parce qu'on a peur. Mais qui c'est qui nous aime véritablement ? On peut vivre sans amour. On peut vivre en ayant tout ce qu'il faut pour vivre, mais sans avoir de raison profonde de vivre. Et ça, c'est la maladie la plus terrible. Vivre avec beaucoup de compétences, mais le cœur vide. Le cœur vide d'amour. Ouais, la petite Thérèse, elle n'avait pas tellement de compétences. Elle aurait voulu en avoir des quantités quand elle dit « J'aurais voulu être missionnaire, j'aurais voulu être prêtre, médecin, enfin, faire du bien au monde entier. » Ben non, je suis qu'une toute petite carmélite, mais qui se trouve tout proche du cœur de Jésus. Et je veux donner l'amour de Jésus par le don de moi-même. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ah, c'est ça qui est grand. C'est ça que notre société ne saisit pas. Il y a tellement de ces Mozart assassinés sur l'autel de l'économie. Tant de jeunes et de moins jeunes qu'on sacrifie au service de l'économie, du marketing, du business, alors qu'il y avait tant d'amour à donner. Tant d'amour à donner, tant d'amour à recevoir, tant d'amour à partager, à échanger. A une grande peur, la peur de ne pas être aimé, de ne pas trouver quelqu'un qui nous aime et à qui donner son amour. Une peur encore plus profonde, je dirais, c'est la peur de la mort. Un psychologue disait, la peur des peurs, c'est la peur de la mort. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de la mort ? Il y a la peur de ne plus exister. Et quand on n'est pas aimé, on a l'impression qu'on n'existe plus, d'être rejeté, complètement abandonné. La peur de l'amour, c'est quoi ? C'est la peur du néant. C'est l'angoisse de ne plus rencontrer de bras qui nous accueillent, de cœurs qui s'ouvrent, de personnes qui pensent à nous. La peur de l'amour, c'est cela. Et derrière la peur d'être rejeté, abandonné, il y a, si vous voulez, un immense sentiment de culpabilité qui nous fait dire parfois « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mérité ça ?» C'est très lié, vous savez, la culpabilité et la mort, c'est ce qui fait dire à saint Paul que le péché engendre la mort. Très intéressant. Grand sentiment de culpabilité qui fait que parfois on se sent mort parce qu'on se sent coupable et combien on a l'impression de ne pas mériter de vivre. Je rencontre tellement de gens qui ont vécu de grosses blessures dans leur enfance, qui ont été exploités, abusés, toutes sortes de profondes blessures, et ils se disent « moi je suis trop, je ne mérite pas d'exister, parce que j'ai été traité comme un objet, qu'on rejette, comme un Kleenex dans lequel on se mouche, puis qu'on jette sur le trottoir. » Tant de blessés de la vie, qui vivent des angoisses, qui n'en finissent plus, de ces tunnels, de ces hivers tellement glaciaux qu'on a l'impression de ne plus en ressortir. Voilà pourquoi Thérèse est la sainte de tous ces blessés, de tous ceux qui ont peur, de tous ceux qui sont dans l'angoisse, de tous ceux qui vivent la peur. Parce que Thérèse a vécu ce grand sentiment de culpabilité, cette impression d'être abandonnée, de par la mort de sa maman, connaissait un peu l'histoire lorsqu'elle avait 3 ans et demi, puis sa sœur Pauline qui rentre au Carmel, et ses mamans de substitution qui partent les unes après les autres, et restent abandonnées, elle souffre dans une angoisse terrible. La maladie des scrupules, elle parlera de la maladie des scrupules plus tard, qui est la maladie du sentiment de culpabilité qui nous ronge, qui nous donne l'impression qu'on a toujours tout fait faux, tout dit faux. On est complètement rongé par ce sentiment qui peut nous conduire jusqu'à la mort, et ce sentiment a failli conduire Thérèse jusqu'à la mort, puisqu'elle est rentrée dans une maladie complètement étonnante, psychologique, l'œuvre du démon, dira-t-elle, mais à laquelle on reconnaît des symptômes tout à fait psychiatriques, d'angoisse, de délire, jusqu'à des convulsions, des raidissements musculaires, on a l'impression que Thérèse va mourir. Elle va passer par là, jusqu'au sourire de la Vierge, cette maman qui va venir lui dire « Je suis ta maman, tu as perdu la tienne, moi je vais te donner cette tendresse d'un amour divin. Marie, dit Maurice Sindel, qui est le sacrement de la tendresse maternelle de Dieu. Thérèse va retrouver la santé, elle se sort de sa léthargie. Elle se sentira toujours fragile, toujours attaquée par ses sentiments de culpabilité jusqu'à la grâce de Noël 1886, cette nuit bénie où Thérèse va découvrir le petit enfant de la crèche, pauvre, fragile, faible, elle qui est si fragile et si pauvre et si faible. Elle va se retrouver dans cet enfant, elle se dira « mais Jésus c'est un peu moi ». Ce Dieu que l'on brandit à travers le jansénisme comme un Dieu dangereux à qui il va falloir rendre des comptes. Mais non, il est dans la crèche. Elle est tout petit. Elle va se retrouver en lui. Mais si Dieu est tout petit, il est encore plus petit que moi. Il est encore plus faible que moi, plus rejeté que moi, plus abandonné que moi. Mais je peux me donner à ce Dieu-là. Je peux lui faire confiance. Je n'ai plus peur. Et Thérèse va comme s'identifier à l'enfant de la crèche, c'est ce qui se passe au moment de la grâce du baptême. Mais identifier, en quelque sorte, on devient des autres Christ. Mais identifier à Jésus qui vient nous saisir, on devient en quelque sorte Jésus. Et si Jésus est un enfant, si Dieu est un enfant, il est surtout Dieu qui possède en lui-même cette puissance de vie, cette puissance de résurrection, cette puissance de nous remettre debout, cette puissance de nous projeter dans l'éternité. Quand je suis faible, parce qu'alors que je suis fort, dit saint Paul, parce que la faiblesse a accueilli la puissance de Dieu. Mais Thérèse restera toujours fragile, angoissée, hypersensible. Mais cette sensibilité excessive, elle va pouvoir la dépasser, comme on va le comprendre. Mais j'aimerais vous parler d'une autre peur, de l'origine de la même peur que la psychologie moderne n'explore pas. Cette peur, c'est la peur de Dieu justement, c'est une vieille histoire, vous savez, qu'on raconte dans la Bible, mais en fait, c'est notre histoire d'aujourd'hui, multipliée à des milliards d'exemplaires. C'est cette première humanité, symbolisée dans un homme et une femme, dont l'amitié avec Dieu le Créateur est totale. On lui fait confiance comme des petits-enfants. Mais il se passe des fois même dans la tête des petits-enfants des idées assez tordues, un peu comme un serpent qui circule dans les pensées, et qui fait croire à ce début d'humanité qui a tellement besoin d'être accompagné, soutenu, de faire confiance en ce Père, déjà c'est déjà ce Père. Il y a cette idée tordue, qui, mauvaise pensée, qui fait dire à ce début d'humanité, mais séparez-vous de ce Dieu. S'il vous donne un commandement, celui de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il veut vous posséder, il veut vous avoir. Et l'homme et la femme décident de mettre la main sur le fruit, décide de tout connaître en quelque sorte, décide de savoir par eux-mêmes ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est mal, ce qui est bien. Puis là, ils vont brouiller les pistes, ils vont tout mélanger, ils vont prendre le mal pour un bien, ça va être la panique. Même, ils vont penser que Dieu est dangereux, puisqu'ils y ont désobéi. Alors ils vont se cacher, de Dieu, mais Dieu est toujours le même, il est toujours Père. Vous savez, un père, il va consoler son enfant, même s'il a fait une grosse bêtise, mais il va le consoler parce que son enfant, il est dans une détresse terrible. Et là, l'homme et la femme sont dans une détresse terrible. Ils sont dans l'angoisse totale. Alors Dieu accourt vers ses enfants parce qu'il veut leur faire du bien, parce qu'ils sont dans la détresse. Ce qu'ils ont fait, c'est secondaire, mais ils sont dans la détresse. J'entends toujours cette maman me dire entre ses larmes, « Oui, mon fils se drogue, oui, mon fils fait de la prison à tout moment. Et je refuse ce mal qu'il fait, mais quand il sort de prison, je ne peux que l'accueillir, que l'aider, que l'aimer. Vous comprenez, c'est mon enfant, c'est mon enfant. » Voilà comment Dieu regarde ce début d'humanité, comme il nous regarde aussi aujourd'hui, comme il nous regardera toujours. Comme des enfants en détresse. Alors il appelle homme, où es-tu? Adam, où es-tu? Et la réponse, j'ai eu peur, je me suis caché. Que peut faire Dieu s'il ne trouve pas l'homme? Heureusement, il y a la parabole de la brebis égarée ou le pasteur quitte tout le troupeau pour aller chercher cette brebis qui s'est égarée. Enfin, il la retrouve. Il aura fallu du temps pour que cette brebis soit retrouvée. Le problème, c'est pas qu'elle soit perdue, c'est qu'elle se laisse retrouver. Dieu veut nous retrouver, mais est-ce qu'on se laisse retrouver pour être gagné, pour être touché par l'amour? Adam, où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché. Adam ne fait aucun mouvement vers Dieu. Il ne veut pas se laisser retrouver. Alors il accuse la femme accuse l'homme, on accuse le serpent. C'est la division. Alors on va se protéger. Voyez d'où naît la véritable peur. J'ai eu peur. Quand Dieu n'est plus là, on a même peur des uns des autres. On a toujours l'impression que ceux qui nous entourent sont des ennemis potentiels. Alors on va toujours se défendre, se protéger, ce qu'on appelle des mécanismes de défense, toujours contre les autres. On va avoir peur. Alors les mécanismes de défense vont être très, très divers. Ça va être la fuite, l'agression, la mythomanie, la mégalomanie. Ça va être... On a tous nos petites fuites pour se cacher de l'autre. Où on cherchera à le dominer, où on cherchera même à se soumettre pour ne pas avoir d'histoire. Alors on va fermer sa bouche, on ne dira rien, comme ça au moins on est tranquille, on met la tête dans le sable, ou bien on attaque avant d'être attaqué, parce qu'on a l'impression toujours que l'autre va nous attaquer. Il y a un grand philosophe, d'après Jésus-Christ, Épictète, qui disait « Le problème, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la parole, c'est l'interprétation ». Qu'on en fait. Et on construit soi-même notre table de torture. Alors Dieu appelle depuis le commencement. Adam, où es-tu? Et la Bible n'est que ce cri de Dieu vers l'homme. N'est que ce cri de Dieu vers l'homme. Adam, où es-tu? J'ai eu peur, je me cache, et je continue de me cacher en disant que tu n'existes pas ou en pratiquant simplement une religion de surface, juste par peur de ne pas être sauvé. Il y a tellement de ces défenses parce qu'on a peur d'ouvrir son cœur rempli de blessures à Dieu pour qu'il vienne nous rejoindre, pour qu'il vienne nous guérir. Prenez une éponge. Vous savez à quoi sert une éponge ? Il y a beaucoup de trous dans une éponge. Plus il y a de trous, plus l'éponge va s'imbiber d'eau. Puis ensuite, on va pouvoir presser l'éponge, la réimbiber, la presser. C'est un petit peu le mouvement du cœur. Je reçois, je prends, je donne. Et puis c'est souple. Prenez une pierre, c'est impossible. La pierre est rétractée, elle est dure. Alors voyez-vous, je peux choisir d'être une éponge ou une pierre. L'éponge, ça représente notre cœur blessé. Il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous parce qu'on est blessé et ces trous deviennent rigides, engendrés par la peur. On se rétracte, on a peur, on vit dans l'angoisse. Alors, notre cœur se rétracte, il va devenir comme une pierre. On va être comme replié sur nous-mêmes, on n'osera plus aimer, recevoir de l'amour. Alors qu'on peut être comme une éponge en se plongeant dans l'amour du Père, en se plongeant dans la miséricorde du Père. Et l'avantage d'avoir beaucoup de blessures et beaucoup de trous, c'est que ça va prendre beaucoup de miséricorde. Alors c'est intéressant. Voyez, Jésus est venu pour que nous trempions nos vies blessées avec beaucoup de trous dans son sang, dans sa vie, dans sa miséricorde. Pour nous apprendre à nous tourner vers Dieu et à l'appeler Abba, Père. Vous n'avez pas reçu un esprit, dit saint Paul, qui vous attache à la peur de Dieu, à la peur de la loi, à la peur des autres. Vous avez reçu un esprit de fils et de fille. Et vous pouvez regarder Dieu en l'appelant Abba, Père. Voilà la réponse à la peur. Cultivez cette confiance en Dieu. Cultivez cette confiance en Dieu. Qui rend notre cœur souple, qui évite que ces petits trous deviennent rigides d'amertume, d'angoisse encore plus forte, pour que notre vie ne se rétracte pas dans la rigidité. Vous savez, quand on est rigide, c'est parce qu'on a peur. parce qu'on a toujours peur. La rigidité est aussi une fuite, une défense. Vous savez, quand le pape François dit, là il parle des prêtres, et je m'y retrouve bien parce que je suis prêtre, quand il dit qu'un prêtre rigide, il aboie, il mord, il fait peur. Un prêtre ne doit pas être rigide, il doit être souple, ça c'est moi qui rajoute, comme une éponge qui peut recevoir les âmes, les tremper dans la miséricorde du Père et leur redonner de la souplesse. Je crois en ce cœur qui m'habite, ce cœur qui reçoit la vie, qui peut donner de la vie. C'est extraordinaire. Adam, où es-tu ? Je veux répondre aujourd'hui avec Jésus. Père, me voici. Jésus qui apparaît derrière la main de Pilate, voici l'homme blessé de toutes nos blessures, l'homme blessé de nos peurs. Et à côté, voici votre roi, l'homme victorieux, recouvert du manteau royal, l'homme recouvert de la puissance de Dieu. Il y a en nous ces deux hommes-là. Alors je vais revenir à Thérèse. Comment Thérèse va être visitée dans ses peurs ? C'est cette fameuse grâce de Noël 1886, elle ne s'y attendait pas du tout. C'est lorsqu'elle va s'identifier à l'enfant de la crèche et elle dira « À ce moment-là, je sentis rentrer en moi des torrents d'amour, des torrents de lumière, enfin !» L'éponge qui s'imbibe de tout l'amour que le Père, à travers l'enfant, Jésus, déverse dans son cœur. Elle va recevoir une force pour toute sa vie, un courage incroyable pour faire des pas de géant dans la confiance en Dieu. Alors que c'était une époque janséniste, où on proclamait un Dieu qui fait peur, Thérèse n'aura plus peur de Dieu, elle pourra se jeter toute voile ouverte sur les flots de la confiance et de l'amour. C'est une grâce qu'il faut demander à Dieu quand nous sommes dans des peurs paralysantes, quand nous sommes dans des angoisses existentielles qui nous font penser que nous ne méritons pas d'exister. Parce que derrière tout ça, il y a des blessures, puis il faut en parler. Dans ce cas-là, il faut en parler à des gens compétents, en des personnes aussi qui sont le signe de cet amour de Dieu, de cet amour du Père. Alors comment Thérèse va découvrir la petite voix à la suite de cette expérience forte d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui l'aime? Alors c'est assez étonnant parce que Dieu passe toujours par ce qui est tordu en nous, par nos blessures, pour nous faire découvrir des choses extraordinaires. Alors je prends un tout petit exemple de Thérèse avant d'en arriver à la petite voix. Thérèse est une petite fille, Madame Martin, Zélie est encore en vie. Et il y a un événement, vous savez, dans la maison, il y a des grands escaliers de bois. Je suis allé deux fois à Lisieux pour des conférences sans avoir eu le temps d'aller visiter la maison de Thérèse. Il faudra que je voie ces escaliers une fois, depuis le temps que j'en parle. Et la petite Thérèse, elle a tellement peur, elle est tellement affolée, vous savez, que pour monter une marche, elle appelle « Maman !» Et dès qu'elle entend la voix de sa maman, hop, elle peut monter une deuxième marche. Maman, une troisième marche. Alors, je ne sais pas vous dire combien il y a de marches dans cette maison, mais avant d'arriver au sommet, il y a maman, 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 maman. C'est la voix de la sécurité, bien sûr. Mais ça n'aide pas Thérèse parce que là, elle vit dans la peur, elle n'est pas libre. Elle a toujours besoin de quelqu'un qui la rassure. Vraiment, jusqu'à la grâce de Noël 1886, elle a 13 ans. Et Thérèse saisira cet événement parce qu'à un moment donné, quand sa mère sera morte, puis son père, elle va se souvenir de cet événement et elle va transposer ce que son papa et sa maman lui auront donné sur Dieu. Au sommet de l'escalier, il n'y a plus Élie Martin, ni à côté de l'escalier, il y a Dieu. C'est Dieu que j'appelle Abba, Père, avance mon petit enfant, avance, je suis là. Et c'est à partir de cet événement, et en méditant bien sûr les Saintes Écritures, que Thérèse va découvrir la petite voix qui fera d'elle un docteur de l'Église, la petite voix de la confiance et de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je repars avec mes peurs. C'est vrai que la peur, elle est là, l'angoisse de culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tout ce qui me paralyse. Thérèse vit cela, mais la vécu cette conversion, cette découverte de ce Dieu d'amour. Elle vit cela. Il y a des angoisses, il y a des peurs, vous savez, ça n'a rien à voir avec le tempérament, qu'on ne peut pas dépasser. Il y a des choses impossibles. Je pense à des deuils. Je pense, vous savez, j'ai été prêtre pendant 30 ans dans les paroisses. Je pense aux familles qui ont perdu un enfant, le plus terrible par le suicide. Vous voyez, que votre cœur ne se trouble pas. Dieu accueille tout le monde. Dieu accueille tout le monde. Il faut prier pour tous ceux qui partent de manière tragique. Notre prière les aide à dire oui à la miséricorde. Ne doutons pas de la bonté de Dieu. Il faut juste lui dire oui. Il faut beaucoup prier. J'ai connu beaucoup de situations dramatiques, tragiques, vous vous en doutez, durant mon ministère paroissial. De la dépression, des épreuves terribles, où il ne suffit pas de dire « Oh, il faut croire en Dieu, ça va passer. » Non, il y a des angoisses, ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je serais très simpliste de dire « Suivez Thérèse, vous n'aurez plus d'angoisse », c'est pas vrai. On ne guérit jamais en réalité de nos blessures. On peut les dépasser par la spiritualité. Ce n'est pas la même chose. On peut les dépasser. On peut regarder la vie malgré tout. On peut de nouveau accueillir les autres malgré tout, avec des angoisses. On peut les dépasser pour qu'elles ne soient plus paralysantes, mais qu'elles soient des chemins de compassion vers les autres, des chemins d'empathie, de compréhension. C'est à ce moment-là qu'on a les réponses qui aident. Quelqu'un qui n'a jamais souffert, il ne peut pas aider quelqu'un qui souffre. Alors ça, j'en suis persuadé. Pour paraphraser la parabole du bon samaritain, je dirais que pour ramasser quelqu'un au bord du chemin, à demi-mort ou qui souffre, il faut d'abord avoir été soi-même ramassé par quelqu'un. Sinon, c'est de la théorie. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas aimer sans souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on est devant de telles angoisses, c'est le début de la petite voie où Thérèse vous répond « Me grandir, c'est impossible. » Comprenez, aller plus loin, c'est pas possible. Je n'y arrive pas humainement. Ce « me grandir est impossible » renferme toutes nos défaites, tous nos échecs, tous nos deuils, toutes nos blessures, toutes nos rancœurs, tous nos horreurs, tous nos drames. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé de chasser ces angoisses, j'ai essayé de chasser ces souvenirs, j'ai essayé de m'en sortir. Je n'arrive pas et je ne supporte pas quand on me dit « ça te passera, t'es pas le seul ». Non. Réponse qu'il ne faut jamais donner, on enfonce plus la personne. Alors que dit Thérèse? Je dois accepter la réalité telle qu'elle est. Et vous voyez, ça c'est important. Est-ce que j'accepte la réalité que j'ai vécue telle qu'elle est? Vous savez, moi je suis proche de la marginalité, des gens déprimés et tout ça, puis j'ai beaucoup travaillé les abus sexuels, un thème qu'on n'aime pas beaucoup parler, pourtant il faut aider les gens. Le refus d'en parler, ben, on ne va pas aider les gens, quoi. Et j'ai aussi écrit un livre là-dessus, Les larmes de l'innocence, mais dans le but d'aider les gens à trouver un chemin qui les aide à s'en sortir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que avant d'accepter que je ne peux pas aller plus loin, puis que j'ai été blessé, il faut encore le reconnaître. Et beaucoup de gens font du déni parce qu'ils se sentent coupables eux-mêmes, parce qu'ils ont honte, parce que c'est l'horreur, quoi, tout simplement. Et quand c'est l'horreur, il y a un mécanisme de défense qu'on développe qui s'appelle le déni. Non, ça ne s'est jamais passé. Et surtout si ça s'est passé dans ma famille ou avec un prêtre, c'est pas possible. Non, ça ne s'est jamais passé parce que c'est trop horrible. Acceptez d'abord de mettre des mots, des noms sur ce que je ne supporte plus, qui se manifeste par des angoisses destructrices, mais derrière lesquelles il y a une cause. Nommez la cause de cette angoisse, de ces peurs. Et on a besoin de se faire aider, d'aller trouver des personnes compétentes. Moi, je reviens du Brésil, j'étais là-bas durant l'été pour prêcher, notamment sur les abus. Et je peux vous dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été abusées. C'est une société très, très affective où on vit en proximité. J'arrive plus à dire le mot maintenant. En promiscuité, merci. Ben, vous allez le dire pour moi. Voilà, merci. Et ces choses se passent couramment. Couramment, mais c'est terrible. Et dans les discussions, on a pu mettre les mots justes. Tu n'es pas coupable. Ça s'appelle un abus, voyez. Il y a des angoisses et il faut avoir le courage d'aller chercher. Et là, on est en plein dans la petite voie. Si je dois me supporter tel que je suis, il faut que je comprenne ce qui se passe derrière cette angoisse, derrière ces refus, derrière ce déni, et quitter ce déni. Ce déni. Je dois me supporter tel que je suis. D'abord accepter ce qui s'est passé, accepter mes défaites, accepter mes défauts, accepter mes maladies, accepter ces blessures, accepter qu'il y a dans ma chair une écharde. Saint Paul, hein? Il y a une écharde dans ma chair. Vous savez pourquoi on ne sait pas exactement de quoi Paul souffrait? Et ça, c'est volontaire. Parce que si on savait, on aurait dit, je ne sais pas moi, un gros mal de tête, on aurait dit, bon, il avait mal à la tête. Mais s'il n'a pas nommé l'origine de son écharde, c'est pour que nous-mêmes, on puisse se retrouver dans cette écharde. Oui, moi, j'ai aussi quelque chose qui me panique, quelque chose qui me ronge, quelque chose qui me poursuit, quelque chose qui me tue. Mais parce qu'il s'est passé ceci ou cela. Ça peut être aussi à l'origine un péché que je ne veux pas accepter d'avoir commis ce péché-là. Alors je suis dans la détresse, je suis dans l'angoisse. Alors que faire? Et la petite voix de Thérèse, me grandir c'est impossible, aller plus loin c'est pas possible. Il faut nommer ensuite ce qui m'écrase. Pourquoi je peux nommer? Parce que Thérèse d'abord a fait l'expérience d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui ne juge personne, d'un Dieu qui me dit, si ton cœur t'accuse, sache que moi je suis plus grand que ton cœur. Si nous n'avons pas fait l'expérience de ce Dieu expérimenté par Thérèse, de ce Dieu de miséricorde, on ne peut pas nommer ce qu'on ne supporte pas en soi. C'est pas possible. Et on vit dans l'angoisse. Il est possible de quitter certaines angoisses, de quitter certaines maladies, parce qu'on a le courage de nommer ce qui nous est arrivé. Pourquoi il y a ces peurs? Pourquoi il y a ces peurs? Si d'abord je me suis libéré de la peur de Dieu. Adam, où es-tu? J'ai eu peur, je me suis caché. Et Dieu cesse de nous crier dans notre cœur et à travers la Bible, je te cherche. C'est pas toi qui me cherches. Je te cherche. Je viens à ton secours, mais je t'en supplie. Réponds-moi. Mais je ne suis pas là pour te juger. Tu es dans la détresse. Je suis là pour répondre à ta détresse. Je t'en supplie. Dieu nous supplie. Dieu nous supplie. Celui qui nous dit en Osée chapitre 11, ce Dieu qui, comme un enfant nous prend contre son cœur, nous berce, nous caresse sur sa joue. Croyez-vous qu'un tel Dieu serait capable de nous faire du mal? Lui qui est plus mère que mère, qui est plus père que père, dont la tendresse nous émeut, dont Marie est l'icône, tendresse maternelle de Dieu. Et si c'est trop dur, il faut aller le demander à Marie. Que Marie nous fasse comprendre la tendresse de Dieu à travers son cœur maternel. Je dois m'accepter tel que je suis. Voilà, c'est toujours la petite voix. Au fond, c'est, vous savez, Thérèse, c'est moi qui traduis, c'est comme si on se trouve, j'étais à New York une année, c'est des buildings, moi je ne sais pas, de 150 étages, et c'est comme si on me disait, bah, écoute, gravis ce building à main nue. Bah, on dirait, c'est impossible. C'est comme ce que je viens de vous dire, il y a des situations, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va à l'intérieur, on prend un ascenseur. Vous voyez où je vais en venir? Et Thérèse, c'est ce qu'elle va nous apprendre. Mais Jésus, il est descendu du building. Il est descendu de ce Dieu qui nous semble parfois tellement éloigné, de ce Dieu parfois qui nous aurait oubliés. Alors Jésus vient, il descend. Il descend jusque dans la boue du Jourdain, là où je suis empêtré dans la boue du Jourdain, là où je ne sais plus qui je suis, là où je patauge. Il vient me saisir par la main pour me conduire tout contre la joue de ce Père au cœur de mère. C'est ça la petite voix. Accepte d'être petit, mais est-ce que j'accepte d'être petit? Le petit, c'est pas seulement le petit enfant qui vient de crier, là, tout mignon. Pour l'instant, il est tout mignon, voilà. Et il cherche sa maman, voyez. Ça, c'est tout à fait la petite voix. Il cherche sa maman parce qu'il est crispé. Il dit, changer, c'est impossible pour l'instant. Et sa maman le prend dans ses bras. Voilà, vous avez là, son et lumière de la petite voix de Thérèse. Voilà, il faut saisir le moindre petit événement. Alors, un petit, c'est pas un gamin. Un gamin, il est capricieux, il tape du pied. Un petit, c'est pas un gamin. C'est justement celui qui est l'être blessé et qui a peur de Dieu. Et qui a peur de Dieu. Et Thérèse dit, mais si tu es un enfant, pourquoi tu as peur de Dieu? Fonce dans les mains de Jésus. Jette-toi dans les mains de Jésus. Vous voyez, c'est la peur qui nous empêche la confiance et l'abandon. C'est la peur. C'est la peur parce qu'on croit, toujours qu'on doit rendre des comptes à Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la peur de Dieu. Il faut se jeter dans les mains de Jésus qui est l'ascenseur, dit Thérèse, qui nous conduit jusqu'au Père. Et là, oh, il va nous faire du bien, le Père. Il va nous soigner. Il va nous pardonner. Sauver le péché. On est pardonné. Saint Paul dit que le Christ a payé pour nous. La porte est ouverte. Il faut juste dire oui. Il faut nommer son péché pour savoir contre quoi il faut se battre, contre ce qui nous encrasse, ce qui nous paralyse. Mais on est pardonné. C'est pas une histoire, le péché. Ce qui est une histoire, c'est la détresse que le péché engendre. C'est l'angoisse et en plus la peur de Dieu. Alors avec tout ça, eh ben, on n'a plus rien à rajouter. Dans le camion, tout est plein. Il faut décharger une fois tout ça, quoi. Il faut même se jeter dans les bras de Jésus avec camion double remorque. C'est pas grave. Il monte n'importe quelle tonne jusqu'au Père, au corps du Père pour petit à petit. C'est le Père qui le déchargera. Et il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Donc, Thérèse dit, mais entre, saute dans les mains de Jésus. On ne peut tomber plus bas que dans les bras de Dieu. Dit-elle, accepter d'être porté par un autre. C'est beaucoup plus difficile que de vouloir porter les autres. Parce qu'accepter d'être porté par un autre, c'est accepter d'être dépendant. Puis ça, on n'aime pas tellement la dépendance. On préfère plutôt tout maîtriser, tout gérer. Mais là, non, je me donne à toi. Je n'attends pas ce soir de savoir si quelque chose va changer. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de se donner ce soir, maintenant, à Dieu. C'est de se remettre entre les mains de Jésus, maintenant. C'est ça qui est important. Demain, serais-je encore en vie? Je n'en sais rien. Voyez, se jeter dans les bras de Dieu. Ne pas attendre. Et puis vous allez voir comment les choses vont petit à petit changer. On pourrait dire, si on connaît mal Thérèse, mais c'est un oreiller de tendresse. De paresse, pardon, il suffit de s'abandonner, de faire confiance. D'abord, faire confiance, c'est pas si simple, c'est accepter de faire la vérité en nous-mêmes parce qu'on est aimé. C'est ça d'abord. Je dois me supporter tel que je suis, avec ce qui m'est arrivé. Mais Thérèse sait ce qui lui est arrivé. Elle peut nommer. Tout ça, c'est dans l'histoire de sa vie, l'histoire d'une âme. Est-ce que j'ai vraiment nommé la cause de mes détresses et de mes angoisses? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de les nommer parce que je n'ai plus peur de Dieu? Parce que Dieu me regarde avec tendresse, parce que je suis dans la détresse, voyez sa rime. La détresse attire la tendresse. La misère attire la miséricorde. C'est cela qui est juste. Et après, parallèlement à la petite voix, pour montrer que ce n'est pas un oreiller de paresse, Thérèse invente l'histoire de l'escalier, voilà, petit escalier de son enfance, où elle dit ceci. Elle dit, mais c'est l'autre pendant de l'ascenseur, on est toujours dans la petite voie là. Elle dit, mais ça n'empêche pas de faire des efforts. Regardez le petit enfant qui est au fond de l'escalier, et il y a Jésus qui est en haut. Alors le petit enfant, il va essayer de lever son pied sur le premier échelon pour faire quelque chose de bien, l'escalier de la perfection, de la charité, puis il regarde en même temps Jésus. Alors, il faut jamais essayer d'aimer sans regarder Jésus, on va se planter. Et là, il regarde Jésus, puis il fait tout ce qu'il peut pour aimer, puis il n'arrive pas. Et Thérèse de dire, c'est tellement beau. À un moment donné, Jésus, vaincu par mes efforts inutiles, descendra au fond de l'escalier de la perfection et il me prendra dans ses bras pour me conduire jusqu'au sommet. C'est tellement beau. Ça veut dire dans l'évangile, voyez-vous, il y a un truc là. Dès que je fais du forcing, je ne suis plus dans l'évangile. Ça veut dire que je compte que sur moi. Le forcing n'est pas synonyme d'effort. C'est différent. Faire un effort en regardant Jésus, ça va m'aider à avancer. Et puis déjà porté par Jésus à son sol. Faire du forcing, c'est quand on est trop pressé, on veut arriver par nos propres forces, et puis là on se plante parce qu'on peut devenir légaliste, pharisien, ou alors à un moment donné c'est tellement dur qu'on abandonne tout, on laisse la religion de côté. L'effort, ce n'est pas du forcing, voyez-vous. L'amour, ce n'est pas une obligation, mais l'amour oblige. Il y a de l'obligation dans l'amour, parce que d'abord on a choisi d'aimer. Parce que d'abord on a choisi Jésus. Alors ensuite, on s'oblige parce qu'on est responsable de celui qui nous a apprivoisés et de celui qu'on veut apprivoiser. Alors, je prends quelques petits exemples. Comment poser son petit pied chaque jour? Eh bien, c'est faire tout ce qu'on peut pour lutter contre les causes de nos peurs aussi. Réfléchissez aux causes de nos peurs. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a l'engagement humain. Je vais lever mon petit pied pour être charitable, pour attirer l'amour de l'autre, pour créer l'unité. Et en même temps, porté par Jésus. Ce qui est premier, ce n'est pas l'effort, c'est que je suis porté par Jésus et je suis tellement touché parce que Jésus me porte. Vous savez, le petit enfant, à un moment donné, il est dans les bras de sa mère, il commence à s'agiter parce qu'il veut marcher tout seul. Alors, il faut d'abord se laisser prendre dans les bras. Marcher tout seul, mais Jésus est derrière, vous savez, il nous tient comme ça, vous connaissez cette petite parabole par cœur des traces de pas sur le sable, de cet homme qui se retourne, qui dit à un moment donné, je ne vois plus qu'une trace de pas sur la plage de ma vie. C'était les moments les plus difficiles où j'avais tellement besoin de toi, Seigneur, et c'est là que tu m'as abandonné. Et le Seigneur de lui répondre, non, c'est dans ces moments-là que je te portais dans mes bras. Jésus est toujours là. Mais il est derrière, il nous soutient et parfois il nous porte et là on le verra. Voilà donc l'escalier de la perfection, faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Moi je vais vous raconter une petite histoire, c'est peut-être un peu mon petit témoignage personnel puisque j'ai été ordonné prêtre et 2 ans après je me suis converti. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais j'étais quand même quelqu'un de très angoissé. Je peux vous le dire, aujourd'hui, je suis toujours resté hypersensible. J'avais des angoisses paralysantes. Mais paralysantes. Ça, je vous le promets, je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. Je ne vous fais pas du plan, vous le disant. Et c'est vrai que j'ai mal commencé mon ministère. J'avais des peurs énormes. J'avais peur de parler. Vous vous rendez compte? J'avais peur de prêcher. Je mettais 2 semaines pour préparer une homélie, que j'arrivais jamais à la préparer à cause de l'angoisse. Tout ce qu'on me donnait comme ministère, c'était un peu dans le sillage de mai 68, où on comptait vraiment sur les compétences des prêtres, on était des animateurs, il fallait réussir partout, et moi je réussissais pas. J'avais pas les compétences qu'on attendait de moi, mais j'avais un amour fou pour Jésus. Ah, ça je l'ai toujours eu, puis encore aujourd'hui, ça m'a jamais passé.